J'écouterai ce que dit Dieu et nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. Cela fait depuis un certain temps que nous sommes dans la méditation du Sermon sur la montagne et ce matin nous allons nous attacher à ce qu'on peut appeler une petite phrase de Jésus. Petite phrase un peu choc, mais que nous lisons dans son contexte que nous avons déjà médité. Nous lisons donc Matthieu, chapitre 5, les versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors, vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever, lui, son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Faut-il être perfectionniste pour suivre Jésus? Vous donc, dit le Seigneur Jésus, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est sur ses disciples que Jésus braque le projecteur en disant cela. La perfection, nous le savons, est exigée dans certains domaines de la vie. L'hôtellerie, la restauration de luxe, par exemple, demandent à leurs employés que tout soit parfait, jusqu'au moindre détail, pour l'accueil des clients. Le sport de haut niveau exige lui aussi souvent la perfection du geste. Mais il s'agit à chaque fois d'un secteur particulier de la vie. Jésus, lui, parle de la vie de ses disciples dans sa totalité. Parfait sous tout rapport? Est-ce là ce que Jésus nous demande lorsqu'il nous dit « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Nous entretenons des rapports complexes avec la perfection. Nous avons besoin de nous rappeler ici ou là que la perfection n'est pas de ce monde, que nul n'est parfait. S'en souvenir, cela permet d'accepter nos limites, d'accepter aussi la réalité. Les gens brillants doivent s'en souvenir et l'apprendre pour ne pas écraser les autres de leur suffisance, pour rester réalistes sur eux-mêmes. Les gens complexés, ceux qui se dévalorisent sans cesse par rapport aux autres, ont besoin aussi de ce rappel que nul n'est parfait, pour relativiser l'image surdimensionnée qu'ils se font parfois des autres. Nul n'est parfait, c'est bon de nous en souvenir. Mais le danger inverse existe aussi, celui finalement de nous complaire dans la médiocrité, de nous complaire dans l'à-peu-près permanent. Nous avons aussi besoin d'être tirés vers l'avant, d'être tirés vers le progrès, vers certains dépassements. Francis Blanche a eu à cet endroit un mot d'esprit plein de bon sens. Il a dit « Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre. » C'est assez bien vu. En tant que chrétien, nous fréquentons l'idée de perfection à chaque fois que nous pensons à Dieu. Il est parfaitement pur, parfaitement saint, parfaitement amour. En face, il y a notre réalité à nous. Nous nous savons humains, nous nous savons pécheurs, en chemin, appelés à plus haut, en lutte, plein d'aspirations, en échec parfois. Comment habiter entre ces deux pôles? Comment naviguer entre ce que nous sommes et ce qu'est notre Dieu? Comment cheminer entre nos manques et nos aspirations? Vous donc, dis-je, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Incontestablement, Jésus nous invite à ne pas nous contenter de la médiocrité, à viser haut. Vous donc, cela distingue ses disciples. Dans le contexte, vous distingue les disciples par rapport aux païens, dont il vient d'avoir été question, par rapport aux péagers, ces gens qui vivent finalement leur vie sans référence à Dieu, qui n'ont pas non plus les ressources particulières de l'action de Dieu en eux. Et cet appel à la perfection prolonge l'appel que Jésus leur a déjà adressé lorsqu'il demande d'aller plus loin que l'ordinaire, de faire plus que d'aimer ceux qui nous aiment, d'aller plus loin que de simplement saluer ceux qui nous saluent déjà. Jésus attend de ses disciples qu'ils manifestent une différence, qu'ils les conduisent plus loin, qu'ils les conduisent plus haut. Mais le contexte évoque aussi ceux qui utilisent la loi donnée par Dieu à Moïse, par exemple, pour l'émousser, pour l'édulcorer, la rendre plus accessible, l'adapter à leurs possibilités. À plusieurs reprises, Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis. Et ce qu'il avait été dit, c'est ce qui avait été dit dans la loi et ce qu'on en comprenait un petit peu à cette époque en essayant de l'arranger comme on pouvait. Jésus le premier s'est débarqué de ces gens-là en rappelant le sérieux, les conséquences engageantes de la parole de Dieu. Et il invite ses disciples, eux aussi, à viser plus haut, à ne pas émousser la portée des commandements de Dieu. Vous donc, cela distingue ceux qui veulent être ses disciples. Mais par quoi passe cette attitude d'ouverture justement à ce que Dieu veut de manière totale? D'abord par un choix qui sera le choix de notre référence. À quoi vais-je me mesurer? Vers quoi vais-je marcher? À quoi vais-je aspirer? On peut choisir pour orienter sa vie des repères à notre mesure. Je veux être un honnête homme. Je veux vivre une vie pas plus mauvaise que la moyenne. Ne pas voler, ne pas tuer, faire de personne. Voilà ce qu'on entend partout autour de nous. Cela donne des repères valables, mais des repères que nous modulons notre mesure à nous, que nous choisissons finalement dans les limites de nos possibilités globales. Jésus, lui, nous invite à adopter une autre référence comme repère. Le modèle qu'il nous donne, c'est celui de Dieu, celui de son action, celui de ses qualités. Pour vous jauger, pour vous orienter, regardez plutôt de ce côté-là, nous dit Jésus. Regardez plutôt à lui. Et Jésus, en faisant cela, n'innove pas. Le repère donné dès la première alliance entre Dieu et son peuple d'Israël était du même ordre. « Vous serez saints, disait le Seigneur, comme je suis saint. » Pareil, un objectif au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre mesure, un objectif élevé, d'une certaine manière inatteignable, mais une parole qui porte en avant, qui porte plus loin. Avec une telle parole devant soi, impossible de se complaire dans le petit cocon de ce que déjà nous savons être, de ce que déjà nous savons faire. des objectifs élevés. Et quand on y réfléchit finalement, comment progresser sans objectif plus élevé que soi? Comment conquérir sans regarder plus loin que ce que déjà on a réalisé? Aucun chercheur, s'il ne se cantonnait dans l'acquis, ne ferait les centaines d'expériences qui sont nécessaires à la moindre découverte. Il faut vouloir aller au-delà de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on sait faire. Sans être habité par un objectif qui pousse plus loin, personne n'aurait jamais atteint le sommet de l'Everest. Sans un désir inassouvi de capter, de traduire toute la richesse de la lumière, jamais les toiles impressionnistes n'auraient été réalisées. Comment progresser sans objectif plus élevé que soi? Et c'est pourquoi Jésus nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais Jésus ne fixe-t-il pas quand même la barre un petit peu haut? Il nous demande d'être parfaits, à la mesure de Dieu en plus. Ne faut-il pas un peu relativiser? Car devoir être parfait, cela implique que l'on réunisse toutes les qualités, dans tous les domaines, à tous les moments. Pas la place pour la moindre faille, le moindre manque. La perfection est une loi absolument impitoyable. La perfection ne dit jamais assez dans aucun domaine. Et ça donne quoi, la perfection dans un monde imparfait? Des zombies? Des extraterrestres? Que dit Jésus? Est-ce qu'il emploie le mot « parfait » au sens fort? Ou peut-être nous donne-t-il un sens un peu plus limité du mot « parfait » Il arrive que dans la Bible, le mot « parfait » évoque la maturité plutôt que la perfection de celui qui est bien sous tout rapport. L'apôtre Paul, par exemple, contraste ce qui est parfait, et c'est le même mot que Jésus emploie ici, avec ce qui est partiel. Et il donne comme illustration le contraste entre l'adulte et l'enfant. Ce qui est parfait dans ce sens, c'est ce qui est mûr d'une certaine façon, qui est arrivé à maturité. Est-ce que ce serait peut-être pas plutôt ce genre-là de perfection que le Seigneur demande à ses disciples? Une attitude mûre, adulte, mais pas une impeccabilité. Dans la même ligne, certains disent que la perfection, c'est être entier, entier pour Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel. C'est un verset du Deutéronome 18, et on a le même mot qui est traduit ici par parfait. N'est-ce pas plutôt ça que Jésus nous demande finalement? Être entièrement à Dieu, totalement pour lui, être mûr, mais pas vraiment impeccable. Ce serait envisageable s'il n'y avait pas la deuxième partie de la phrase qui dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Parce que là, on parle des qualités morales du Seigneur. Et d'autant que Jésus prolonge certainement la formule « Vous serez saints comme je suis saint ». La perfection de Dieu, ce n'est pas sa maturité. La perfection de Dieu, ce n'est pas non plus sa pleine appartenance à lui-même. C'est l'ensemble de ses qualités morales qui fait la perfection de Dieu. C'est son amour, c'est sa justice, c'est sa droiture, sa fidélité, sa miséricorde, sa générosité. La sainteté disait déjà cela quand on disait « Soyez saints comme je suis saint », mais elle le disait plutôt en opposition avec le mal. Dire « Votre Père céleste est parfait », cela nous rappelle que la sainteté de Dieu, c'est aussi la perfection dont il revêt chacune de ses qualités. que la sainteté de Dieu, c'est aussi la beauté qu'il met à chacune de ses qualités. Son amour est magnifique. Sa justice est limpide et totalement apaisante. Sa droiture est admirable et bonne. Sa fidélité est éblouissante. Sa miséricorde est bienfaisante. Sa générosité est inimaginable et riche en amour. Soyez parfaits. Cela veut dire reproduisez les qualités morales qui sont en Dieu et qui sont en lui de si belle manière. Manifestez dans votre vie quelque chose de la sainteté du Seigneur qui est si belle. Mais nous demander de reproduire l'ensemble des qualités de morale de notre Père Céleste, n'est-ce pas quand même nous écraser d'une exigence trop élevée ? Luc, d'ailleurs, semble un peu moins exigeant. Lorsqu'il rapporte cette fin du passage du Sermon sur la montagne, Luc nous dit « Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. » C'est en accord avec le contexte immédiat. Jésus vient de parler de la miséricorde de Dieu qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Ne serait-ce pas finalement à cette perfection-là qu'il faudrait viser plutôt qu'à une perfection qui reproduit l'ensemble des qualités morales du Seigneur ? Pourquoi cette formulation chez Luc « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux » alors que Matthieu dit « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait ». Est-ce que Luc a voulu réduire la voilure du mot « parfait » un peu trop écrasant ? A-t-il voulu dire que finalement la perfection, c'est l'amour et rien d'autre ? C'est difficile d'envisager que Luc veuille corriger Jésus. Il est bien trop respectueux pour cela. Il semble plus juste de penser que Luc a voulu souligner que la perfection dont parle Jésus n'est pas appelée à être une notion théorique, parfaite dans la théorie, mais qu'elle doit s'appliquer de manière très concrète, à l'image de la miséricorde très concrète du Seigneur. Et Luc, me semble-t-il, en précisant la notion de la miséricorde, nous indique la façon dont nous devons envisager cette perfection à laquelle le Seigneur nous invite, en des attitudes concrètes qui seront en accord avec ce que Dieu manifeste dans son être, dans son action. Mais Luc ne réduit pas la voilure de l'objectif. Nous restons donc, me semble-t-il, avec cet objectif large, élevé, où les différentes qualités de notre Père nous sont proposées comme modèle. J'espère que vous tenez toujours avec cet enfermement que je fais là. Alors Jésus veut-il dire que nous sommes capables de cette perfection ? Ou au moins que nous devrions être capables de cette perfection. Si nous le demandons, n'est-ce pas qu'elle doit pouvoir se réaliser en nous ou qu'elle devrait le faire ? Certains, dans l'histoire, ont enseigné que les chrétiens peuvent et doivent atteindre la perfection, au sens le plus dense du terme, hein, sans échappatoire, que nous pouvons ou que nous devrions ne plus pécher. Être impeccable, dans ce sens fort du terme. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il y a différentes manières de fixer un objectif. On peut demander quelque chose de très élevé à quelqu'un, comme un repère vers lequel il faudra tendre toujours, vers lequel il faudra s'orienter toujours et encore, sans jamais le perdre de vue. Et ceci, même si concrètement, on reste encore en marche, en chemin vers ce but, et sans le réaliser complètement. Un entraîneur de basket américain qui s'appelle John Wooden a mené plusieurs fois l'équipe universitaire de basket de Los Angeles au sommet. Et il disait, la perfection, c'est l'impossible vers lequel nous tendons. Intéressant comme démarche, comme manière de parler. Il fixait cet objectif à ses joueurs, c'est pour ça qu'ils sont arrivés très, très, très loin. Il savait que cet objectif de perfection était impossible à réaliser totalement, c'est pour ça qu'il dit c'est l'impossible vers lequel nous tendons, mais il tendait vers cela. Et cela poussait toujours plus loin vers l'objectif. Et il me semble que c'est dans ce sens que Jésus invite ses disciples à être parfaits, à l'image du Père Céleste. Il ne s'agit pas d'être impeccable, parfait sous tout rapport. Les disciples de Jésus vont continuer à prier, et c'est Jésus qui leur enseigne, vont continuer à prier « Pardonne-nous nos offenses ». Les disciples de Jésus vont continuer à avoir faim et soif de justice, comme Jésus le disait, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et avoir faim et soif de justice, y compris en regardant à leur propre vie. Les disciples de Jésus vont continuer à demander, ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Toutes ces requêtes, c'est Jésus qui les a formulées pour ses disciples. Elles disent nos limites, elles disent aussi nos chutes, elles disent nos faiblesses. Elles montrent que Jésus ne rêve pas quant à la réalité de ce que nous sommes. Mais cela ne doit pas nous détourner de l'objectif. Jésus veut que nous restions orientés toujours par les perfections morales de notre Père Céleste et que nous avancions toujours et encore à partir de là où nous en sommes, vers cet objectif. Un indice du texte le suggère peut-être. Le texte originel ne dit pas « soyez parfaits » à l'impératif direct, mais il dit « vous serez parfaits ». C'est l'impératif futur, si vous voulez. La nuance est fine, mais cela peut peut-être indiquer que la perfection est toujours quelque chose vers lequel il nous faut avancer. Mais l'élément essentiel, ce n'est pas cette question de grammaire, l'élément essentiel, c'est que Jésus nous demande cela tout en sachant nos limites et en les intégrant dans son optique. Et tout le Nouveau Testament nous affirme la même chose. Ce que l'on appelle notre sanctification, le travail de Dieu, de transformation que fait Dieu dans notre vie, notre sanctification est toujours décrite dans le Nouveau Testament comme un processus, un travail progressif qui se fait tout au long de notre vie. Son aboutissement ne se fera qu'au jour de Jésus-Christ, lorsqu'il fera vraiment toute chose nouvelle. Là, oui, l'impeccabilité sera donnée. Mais en attendant, nous courons vers le but, comme le dit l'apôtre Paul lui-même. Mais en étant lucides, ce n'est pas que nous avons déjà remporté le prix, ce n'est pas que nous avons atteint la perfection. Et je cite ici l'apôtre Paul. Mais nous la poursuivons afin de la saisir. Oui, dit Paul, je n'estime pas l'avoir saisie, mais je fais une chose, tendu vers ce qui est en avant, je cours vers le but. L'image est celle d'un homme tendu vers, mais pas d'un homme arrivé, ni même d'un homme qui, normalement, devrait être arrivé. L'objectif reste loin, élevé, mais on ne le perd pas de vue. On ne l'abandonne pas. Il oriente la vie. Il tire en avant. Jésus sait que nous sommes, que nous resterons en route, et c'est là ce qu'il veut pour nous, que nous marchions avec nos limites, mais orientés vers le but. Alors, chrétien perfectionniste, on est obligé ici de nuancer, car il existe un bon et un mauvais perfectionnisme, une bonne et une mauvaise manière de rechercher la perfection. Il existe un perfectionnisme qui n'accepte pas la moindre erreur, qui ne supporte pas d'être pris en défaut. Est-on pris en défaut quelque part ? C'est une blessure personnelle, une remise en cause de notre identité même. Tout s'effondre si l'on n'a pas été parfait. Ce qui est en cause ici, dans le désir de perfection, c'est une image de soi. C'est une image de soi. On existe, on ne se valorise qu'à travers ses performances, ses réalisations. Pour certains, ça se traduit par « je ne peux être aimé » ou « je ne peux être aimable aux yeux des autres que si je suis le petit soldat qui fait tout de manière impeccable. » Certains vivent des choses comme cela. Certains se sont construits ainsi, ont intégré de cette façon les normes qu'ils ont perçues, qu'ils ont reçues, qu'on leur a peut-être imposées. Ils pensent plus ou moins consciemment qu'il faut en faire beaucoup pour pouvoir être aimé et que c'est seulement comme cela que l'on peut être aimé ou aimable. La quête de perfection est une quête désespérée d'être accepté. Il faut donc être impeccable, jamais pris en défaut. Du point de vue religieux, cela se traduit soit par une sorte de culpabilité maladive, un mal-être profond, soit en choisissant un domaine d'excellence. Les personnes qui sont construites comme ça auraient un peu cette tendance à choisir un domaine d'excellence dans lequel, alors là c'est sûr, ils seront absolument irréprochables. Irréprochable, nickel, parfait. C'est ce qu'avaient fait les pharisiens. Avec le respect du sabbat, des jeûnes, des dîmes. Ils avaient sélectionné leur petit domaine d'excellence. Ah, pour le sabbat, personne ne nous y prendra. Ah, pour le jeûne, c'est nickel. Ah, pour les dîmes, on donne tout ce qu'il faut, parfait. Ils avaient sélectionné leur domaine d'excellence dans lequel ils ne seraient jamais pris en défaut. Et Jésus doit leur dire, et tout le reste, mes amis. Et la miséricorde, et l'attention à l'autre et à son bien, et la complexité de la vie, qui fait qu'un jour du sabbat, tu peux peut-être croiser quelqu'un qui a besoin de toi, de ton action, de ton travail. Et puis aussi, dit Jésus, ton petit problème d'image, que tu veux soigner à tout prix, l'extérieur, le plat magnifique, lavé, alors qu'à l'intérieur, il y en a des choses bizarres qui s'y passent et qu'il faudrait peut-être travailler là aussi, sur ces choses-là. Le perfectionnisme, la volonté d'être absolument parfait, excellent, amène soit à se détruire complètement, soit parfois à sélectionner son petit domaine d'excellence. Une autre forme de perfectionnisme négatif, le perfectionnisme qui a tellement valorisé un objectif que cet objectif fonctionne comme un absolu. On passe des heures à nettoyer sa maison, des heures à peaufiner un texte, des heures à fignoler un PowerPoint, parce que la moindre poussière dans la maison, la moindre virgule à retoucher, le moindre recadrage à un PowerPoint voudrait dire que ce qu'on a fait est nul. Quand on fait de ses objectifs des absolus, c'est ou bien 100% bien, ou bien nul. Il n'y a pas d'entre-deux. si on a réalisé 97% de très bien et qu'il y a 3% qui pourraient être améliorés, ces 3% anéantissent les 90% qui ont été faits. L'objectif de faire quelque chose de bien est devenu un absolu. En termes religieux, on dit il est devenu une idole. Et il me semble que c'est un bon repère pour penser à nous, à notre vie. Si nous ne sommes pas capables d'accepter une marge d'erreur ou de couac ou d'imperfection, c'est que nous avons idolâtré un objectif. Si nous nous laissons terrasser par les 3% qui manquent, alors que nous avons réalisé les 97% de bien, notre regard n'est pas juste. Si nous prenons un temps infini pour échapper à ces 3% qui pourraient ne pas être absolument parfaits, si à cause de cela nous prenons tout un temps infini, c'est que nos regards, que nos valeurs ne sont plus justes. Alors, il faut quand même dire qu'il existe des performances qui exigent la quasi-perfection pour atteindre le but. Certaines performances artistiques, sportives, exigent vraiment, c'est le propre de la performance, de cette performance que de demander la quasi-perfection. Il faut aussi savoir qu'il y a des travaux qui exigent de la précision. Et qu'à un moment donné, quand il faut vraiment être précis jusqu'au bout, cette précision demande du temps. C'est vrai. Il faut parfois de la précision, il faut parfois la quasi-perfection. Mais cela doit être cantonné à la tâche particulière. Au domaine spécifique. Si à partir de là, on applique ça à tous les domaines de la vie, à ce moment-là, on a perdu le vrai sens des valeurs. Et l'argument comme quoi il n'y a pas de petites choses dans la vie, cet argument est faux. C'est vrai que quand il faut bien faire jusque dans les petites choses. Mais il est vrai qu'il existe quand même des petites choses qui restent des petites choses par rapport à d'autres qui sont plus importantes. Moralement, une faute est une faute, c'est vrai. Mais toute faute ou toute erreur ou toute imperfection n'est pas une faute morale ou un manque condamnable. Un enfant qui apprend doit se tromper pour apprendre. C'est pas condamnable qu'il se trompe s'il apprend. Le meilleur, on le sait, peut devenir l'ennemi du bien. Lorsque ce meilleur devient tyrannique et qu'il nous empêche de concrétiser, et certaines personnes ne concrétisent jamais rien parce qu'ils attendent toujours que ce soit meilleur et meilleur et encore meilleur. Certains meilleurs deviennent aussi l'ennemi d'un autre bien à faire si on les absolutise. Alors oui, il faut donner toute son importance à ce qui est réellement important, mais il faut aussi savoir classer au rang de plus petites choses des réalités qui n'ont pas le même degré d'importance et accepter le relatif même dans ce que l'on essaye de faire de mieux. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'une des clés de cette parole de Jésus, de l'équilibre de cette parole, réside, me semble-t-il, dans l'appellation « votre Père céleste ». Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et que Jésus a vraiment choisi. Jésus n'a pas dit « soyez parfaits comme Dieu est parfait ». Il n'a pas dit « Soyez parfaits comme l'absolu est parfait ». Il a dit « Comme votre Père céleste est parfait ». Et qui est-il, notre Père céleste ? Notre Père céleste est celui qui, le premier, nous aime. Qui, le premier, nous aime. Jésus, qui s'y connaissait en la matière, dit à ses disciples « Le Père lui-même vous aime ». C'était pour dire « Je n'ai même pas besoin de prier pour vous, le Père lui-même vous aime ». Ce Père céleste, nous dit le psaume 103, il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes que poussière, il est compatissant, il fait grâce, il est lent à la colère, il est riche en bienveillance. Tout ça, c'est la façon dont est décrit notre Père céleste dans le psaume 103. Il ne conteste pas sans cesse. Il nous a déjà acceptés. Il nous a déjà aimés totalement, avant même que nous lui offrions quoi que ce soit. Avant même que nous lui prouvions quoi que ce soit, nous avons du prix à ses yeux, nous personnellement, et pas juste à cause de ce que nous sommes capables de faire. Nous avons du prix, chacun à ses yeux, avec ce que nous sommes, avec ce que nous ne sommes pas. L'absolu parfait ne sait pas faire ce genre de choses. L'absolu parfait ne sait pas aimer ceux qui ne sont pas au top au niveau de leur performance. Notre Père céleste, lui, sait le faire. Et ce Père céleste a voulu nous montrer qui est Dieu vraiment. Qui est ce Dieu parfait et source de toute perfection. Et il a pour cela envoyé son unique, son Fils, son unique. Et cet unique est entré dans le relatif d'une vie d'homme. Et c'est ainsi que Jésus est venu parmi nous. Et ce Fils, cet unique, a vécu notre vie d'homme, avec les limites d'une vie d'homme. Il n'a vécu que 33 ans ou 36, 37. Il n'a pas pu tout faire. Jésus n'a pas pu tout faire. Il n'a pas parcouru le monde entier. Il n'a pas agi 24 heures sur 24, il a aussi dormi. Il a même eu besoin de temps pour grandir et pour apprendre. Les évangiles de l'enfance nous le disent. C'était qu'à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Mais dans ses limites, et dans ce relatif, il a tracé une voie droite, une voie magnifique, une voie riche de toutes les qualités qui sont en Dieu. Et il nous laisse l'exemple d'une vie parfaite, mais limitée. Parfaite, mais limitée. Parfaite, mais localisée. Parfaite, mais inscrite dans le relatif d'une vie d'homme, sans péché toutefois. Et riche de cette vie, il s'est donné pour nous. Il a donné sa vie pour nous à la croix, pour racheter nos imperfections, pour nous faire grâce de nos désobéissances, pour nous pardonner nos révoltes, et nos manquements cruels à la volonté parfaite du Père. En nous donnant son Fils, son unique, notre Père céleste nous dit qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il nous dit qu'il sait que nous avons besoin de son pardon pour avancer, mais il nous dit aussi qu'il nous le donne, ce pardon, sans état d'âme, à chaque fois qu'il nous faut nous relever. Le pardon donné en Jésus fait partie du commandement « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Car l'une des perfections du Père céleste est la générosité de son pardon et le prix qu'il a consenti pour nous le donner encore et encore. Et ce Père céleste, qui voudrait que nous, ses enfants, ayons un air de ressemblance avec lui, il a choisi aussi de ne pas nous laisser tout seuls avec la lourde tâche d'arriver au niveau. Il a donc choisi de faire une œuvre de restauration dans notre cœur. Et pour cela, il a envoyé l'Esprit. L'Esprit qui soutenait la vie du Fils venu vers nous. Il nous est donné. Et cet Esprit veut produire en nous de nouveaux fruits. Il sait parfaitement qu'il y en a tout un travail à faire en nous. Il sait parfaitement qu'il y a un travail long et patient à accomplir. Il sait parfaitement qu'on part de loin pour ce travail et qu'il y en a du chemin à faire pour former Christ en nous, en chacun de nous, avec ce que nous sommes. Mais il s'attelle à cette œuvre avec joie, parce qu'il nous aime, et avec persévérance et avec patience. Et c'est parce qu'il est là, parce qu'il assume de travailler avec le relatif de notre vie, c'est pour cela qu'il nous demande aussi de garder le cap qu'il se fixe, lui, pour nous. De ne pas perdre de vue l'œuvre qu'il s'est fixée pour nous et à laquelle il travaille, d'y adhérer, d'y croire, de la désirer profondément, envers et contre nos limites, envers et contre nos imperfections. Alors, faut-il être perfectionniste pour suivre Jésus ? Oui, résolument. Oui, avec joie. Mais pas à notre manière à nous. À l'unique manière de notre Père céleste, qui sait de quoi nous sommes faits, qui nous aime en Jésus, son Fils, et qui nous soutient envers et contre tout par son Esprit. Amen.